Bonjour à toutes et à tous. Au micro, Mouhamadou Oumfa pour vous présenter Le Monde aujourd'hui, édition matinale du vendredi 26 juillet 2024. Voici le sommaire. Le département américain du Trésor annonce une série de sanctions visant des groupes rebelles congolais, dont le M23. Affrontement en Côte d'Ivoire entre les forces de l'ordre et des habitants de la capitale qui protestaient contre les déguerpissements. Au Nigeria, les forces de sécurité mettent en garde les éventuels fauteurs de troubles qui prendraient pour prétexte de manifester contre la vie chère. Le président Joe Biden reçoit le premier ministre israélien à la Maison-Blanche et le presse de mettre fin à la guerre à Gaza. Dans une dizaine de minutes, les nouvelles économiques avec Nani Talani et les sports présentés par Eric Manirakiza. Mais pour commencer, voici le journal. Le département américain du Trésor a annoncé hier jeudi une série de sanctions visant une coalition de groupes rebelles congolais dont le M23, accusé de vouloir renverser le gouvernement de RDC. La coalition, l'Alliance Fleuve Congo, est accusée par Washington de renforcer l'instabilité dans le pays et les déplacements de civils, en particulier dans l'est du pays, où les combats sont réguliers depuis près de 20 ans. Les sanctions visent notamment Bertrand Bisimwa, président du M23, Charles Semitama, le chef militaire de notre groupe armé, ainsi que l'ancien président de la Commission électorale nationale indépendante du Congo, Corneille Nanga, accusé par Washington d'avoir joué un rôle clé dans le report des élections initialement prévues en 2016 jusqu'en 2018. Les sanctions prévoient le gel de leurs avoirs détenus directement ou indirectement aux États-Unis, ainsi que l'interdiction pour toute entreprise ou citoyen américain de commercer avec ces personnes, physiques ou morales, sanctionnées. Dans un communiqué séparé, le département d'État a confirmé participer aux sanctions annoncées, ce qui implique également une interdiction pour les personnes visées d'entrer sur le territoire américain. Le président Joe Biden a reçu hier jeudi le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou à la Maison-Blanche. Il lui a demandé de travailler à conclure rapidement un cessez-le-feu au 10e mois de la guerre dans la bande de Gaza. Firmin Koyaweda.
Les deux dirigeants, qui entretiennent des relations notoirement compliquées, ont tenu à afficher leur proximité devant les caméras lors de leur rencontre dans le bureau ovale. Je tiens à vous remercier pour ces 50 années de travail au service du public et de soutien à l'État d'Israël, a déclaré le dirigeant israélien avant d'ajouter « Je me réjouis de travailler avec vous dans les mois qui viennent ». Le président américain s'est montré de plus en plus critique au fur et à mesure qu'augmentait le bilan des victimes civiles à Gaza. Il veut maintenant faire pression sur M. Netanyahou dans l'espoir d'arriver à un accord de cessez-le-feu. Le président Biden a exprimé la nécessité de combler les lacunes restantes, de finaliser l'accord dès que possible, de ramener les otages chez eux et de mettre durablement un terme à la guerre à Gaza, précise un compte-rendu de la rencontre publiée par la Maison-Blanche. Le président pense que nous devons parvenir à un accord et que nous devons le faire rapidement, a déclaré à la presse le porte-parole du Conseil de sécurité nationale, John Kirby. Nous pouvons parvenir à un accord, mais cela nécessitera, comme c'est toujours le cas, du leadership et des compromis, a-t-il ajouté. Les dirigeants se sont aussi entretenus avec des familles d'otages américains détenus à Gaza qui ont qualifié la réunion de productive.
Toujours aux États-Unis, le gouverneur de Californie, Gavin Newsom, a ordonné jeudi le démantèlement de campements dans les zones contrôlées par l'État, un mois après une décision de la Cour suprême qui permet de sanctionner les sans-domicile fixe. La Californie n'a pas ménagé les efforts pour résoudre la crise qui sévit dans nos rues. Il n'y a tout simplement plus d'excuses. Il est temps que chacun fasse sa part, a déclaré M. Newsom dans un communiqué annonçant un décret qui permet aux agences de l'État de s'attaquer d'urgence aux campements dangereux. La Californie, où les prix de l'immobilier sont parmi les plus hauts des États-Unis, souffre depuis des années d'une grave crise du logement à lui seul. Il concentre les deux tiers des sans-abri du pays. Les pompiers de Californie luttent depuis hier, jeudi, contre le premier méga-feu de l'année dans l'État, un incendie d'origine criminelle qui a provoqué l'évacuation de plus de 3500 personnes et se propage de manière très rapide. Le Park Fire s'est déclenché mercredi après-midi, au dernier jour d'une nouvelle vague de chaleur qui a asséché la région. En un peu plus de 24 heures environ, il a déjà ravagé plus de 500 km² de végétation. L'incendie est d'origine criminelle. Un suspect de 42 ans a été arrêté jeudi matin et placé en détention provisoire selon le procureur local. Il a été vu en train de pousser une voiture en feu dans un ravin, a expliqué le parquet dans un communiqué.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
En Côte d'Ivoire, des échauffourées ont opposé hier pendant plusieurs heures des forces de l'ordre et des centaines d'habitants dans un quartier d'Abidjan. C'était lors d'une opération de démolition et d'expulsion. Les précisions avec Rosine Mounezero.
Des centaines d'habitants du quartier populaire d'Ajamé Village, dans le centre d'Abidjan, ont manifesté leur colère par un rassemblement et des jets de pierres lancés en direction des gendarmes et policiers qui ont riposté par des tirs de gaz lacrymogène. Au moins un engin de chantier a été incendié par les manifestants. Des dizaines de maisons ont été détruites et les rues jonchées de débris sous lesquelles les riverains cherchaient leurs affaires. Il n'y a pas eu de blessés, a assuré le directeur général adjoint chargé de la sécurité publique, Siaka Dosso. Ces opérations appelées déguerpissement ne sont pas nouvelles, mais ont repris massivement en février dans les quartiers précaires du district d'Abidjan, qui regroupe les 13 communes de cette métropole de plus de 6 millions d'habitants, en particulier dans des zones inondables. Le président Alassane Ouattara nous a instruit de mettre l'accent sur la lutte contre le désordre urbain, la lutte contre l'insalubrité et l'amélioration accélérée des conditions de vie et de travail des populations, a déclaré Ibrahima Cissé Bakongo, gouverneur du district d'Abidjan.
Au Nigeria, les forces de sécurité ont mis en garde jeudi contre toute reproduction des violences récentes au Kenya pendant les manifestations prévues début août contre la hausse du coût de la vie. Elles affirment qu'elles couperont court à toute tentative de semer ce qu'elles considèrent comme l'anarchie. Eric Manirakiza.
Si les citoyens ont le droit de manifester pacifiquement, ils n'ont pas le droit de se mobiliser pour semer l'anarchie et propager la terreur, a déclaré devant la presse le porte-parole de l'armée. Les forces de sécurité nigérianes affirment avoir identifié des personnes qui sont déterminées à ce que les manifestations dégénèrent violemment. Le contexte entourant la manifestation prévue est de copier les événements qui se sont déroulés au Kenya, a souligné le porte-parole de l'armée. Le service de renseignement intérieur du Nigeria a également mis en garde dans un communiqué contre toute violence, affirmant que des individus souhaitent nuire au gouvernement fédéral et aux collectivités territoriales. Le coût de la vie a grimpé en flèche au Nigeria, tandis que l'inflation a atteint un niveau record de 34,19% en juin, selon le Bureau national des statistiques. Sur les réseaux sociaux, de nombreux internautes appellent à manifester pour mettre fin à la mauvaise gouvernance. Le président Tinubu a rencontré hier jeudi des chefs traditionnels du pays pour leur demander de convaincre les communautés de ne pas participer aux manifestations. Il a demandé de la patience pour que ces réformes économiques puissent aboutir.
La marche du Niger vers la souveraineté pleine et entière est inexorable, a assuré jeudi le général Abdourahman Tiani, le chef du régime militaire, dans un discours à l'occasion du premier anniversaire du coup d'État qu'il a porté au pouvoir le 26 juillet 2023. Aucun État, aucune organisation interétatique ne nous dictera la conduite à tenir, ni son agenda en matière de partenariat stratégique ou diplomatique, a déclaré le général Tiani dans un discours diffusé à la télévision publique. Il a indiqué que le Niger œuvre désormais pour l'établissement d'un partenariat gagnant-gagnant avec tous les partenaires internationaux sans exclusive. En Afrique du Sud, la juge Mandisa Maya vient d'être nommée présidente de la Cour constitutionnelle par le chef de l'État, Cyril Ramaphosa. C'est la première femme à occuper ce poste dans le pays. Jacques Aristide.
Mandisa Maya, 60 ans, succède à Raymond Zondo, dont le mandat à la tête de la plus haute juridiction sud-africaine expire fin août. Son ascension marque une étape importante, car la juge Maya sera la première femme en Afrique du Sud à être nommée à ce poste, a indiqué la présidence dans un communiqué hier. Cyril Ramaphosa a confirmé la nomination après des consultations avec la commission du service judiciaire et des partis politiques. Madame Maya avait déjà été pressentie pour occuper ce poste en 2022 quand la même commission l'avait recommandée, mais le président Ramaphosa avait alors choisi Monsieur Zondo, 64 ans. Madame Maya, qui est actuellement l'adjointe de Monsieur Zondo, est mariée et mère de 3 enfants. Elle fait partie des 4 femmes parmi les 10 juges permanents siégeant à la plus haute juridiction. L'Afrique du Sud, qui a l'une des constitutions les plus progressistes au monde, compte une forte participation de femmes dans la vie publique. Plus de 40% des députés sont des femmes, notamment la présidente de l'Assemblée nationale et son adjointe.
Le Sri Lanka organisera une élection présidentielle le 21 septembre, la première depuis que le pays a traversé une crise financière majeure, a annoncé ce vendredi la commission électorale. Plus de 17 millions de Sri Lankais seront appelés aux urnes le 21 septembre à l'occasion de la première présidentielle dans le pays depuis que le Sri Lanka a fait défaut sur sa dette extérieure en 2022 après une crise financière qui a engagé des mois de pénurie de nourriture et de carburant. Âgé de 75 ans, le président sortant est arrivé au pouvoir en 2022 après d'importantes manifestations et en contraint à la démission son prédécesseur. Il avait déjà dit son intention de se représenter. Au moins deux autres candidats lui feront face dans les urnes. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. À présent, les dernières nouvelles économiques en Afrique et ailleurs. La Minute Éco, c'est avec Nani Talani.
Lancement au Togo du projet rizicole sous-régional RICOAS, dirigé par l'Institut d'appui technique et soutenu par la CDAO. Le projet veut transformer la riziculture en Afrique de l'Ouest par l'intégration des techniques agricoles avancées et durables, la gestion durable des sols et l'utilisation optimale de l'eau et d'engrais organiques afin d'améliorer la santé des sols et la productivité des cultures. RICOAS bénéficiera sur 4 ans à 13 pays qui recevront environ 200 000 dollars pour sa mise en œuvre. Eni, la compagnie pétrolière italienne, a reçu le consentement formel de la Commission nigériane de réglementation du pétrole de céder la NAOC, sa filiale d'exploration et de production de pétrole et de gaz à terre, à la principale société énergétique du pays, Ondo. Pour terminer, les sociétés libyennes Sulb et turques Tosali Holding ont signé un accord pour la construction d'une usine de fer et d'acier décarbonée dans la ville de Benghazi, à l'est de la Libye, pour répondre aux besoins des marchés en Afrique du Nord et en Europe. L'usine aura une capacité de production totale de 8 millions de tonnes par an et fonctionnera à l'hydrogène propre.
Et maintenant, l'actualité sportive, c'est avec Eric Manirakiza. Salut Eric.
Bonjour Mohamedou.
Jeux Olympiques 2024 de Paris, c'est une logistique impressionnante qui est mobilisée pour la cérémonie d'ouverture sur la Seine.
Eh bien, faire parader une centaine de bateaux sur 6 km de fleuve, cette idée folle génère une logistique non moins folle. Fermer la Seine à la navigation plusieurs jours, acheminer, puis faire embarquer et débarquer quelques 7000 athlètes, sans compter les métros pour amener les spectateurs. 205 délégations vont défiler sur 85 bateaux pendant près de 2h30. Les spectateurs qui ont payé leur place pourront s'installer dans les 124 tribunes sur les quais, bas ou en VIP sur les ponts. Les mesures de sécurité ont nécessité d'installer un périmètre de sécurité autour de la Seine et les quelques 40 000 barrières mises en place ont un peu surpris les habitants du centre de Paris. Et aussi, faire aller aussi les commerçants qui voient la clientèle se raréfier juste avant les JO.
Pour ces Jeux Olympiques, la délégation palestinienne est à Paris pour la cause, pas pour les médailles.
Au-delà des compétitions, la délégation palestinienne veut profiter de l'événement pour dénoncer le traitement inhumain des Palestiniens. Parmi les 8 athlètes palestiniens concourant aux JO, seuls quelques-uns ont été qualifiés, les autres ont bénéficié d'une invitation du Comité international olympique. Et pour la délégation, la course aux médailles n'est pas l'objectif premier. D'après le Comité olympique palestinien, 300 athlètes employés bénévoles du monde sportif sont morts dans la bande de Gaza. Les Jeux olympiques de Paris qui s'ouvrent demain soir se dérouleront dans un contexte sécuritaire fort, malgré des appels à l'exclusion émanant notamment du Comité olympique palestinien. Des 88 athlètes israéliens sont arrivés à Paris et participeront aux compétitions.
Enfin, le Comité olympique américain appelle à la fin des hostilités entre les agences américaines et mondiales contre le dopage.
Le patron du Comité olympique américain a appelé jeudi à la fin des hostilités entre l'agence mondiale antidopage AMA et l'antidopage américain qui s'écharpent depuis des semaines suite à l'affaire des nageurs chinois contrôlés positifs en 2021 mais jamais sanctionnés. Cette affaire dévoilée par la presse en avril cristallise des relations déjà tendues par le passé entre l'AMA et le patron de l'antidopage américain. Un procureur indépendant missionné par l'AMA a conclu début juillet que l'organisation de Montréal n'avait pas favorisé la Chine dans cette affaire.
Merci Eric.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Mouamadou Oumfa, toujours avec vous. Maintenant, la partie magazine. Au Tchad, les cultivateurs abandonnent progressivement les cultures vivrières au profit des cultures de rente dans les zones agricoles. André Kodmadinga, correspondant de VOA Afrique, fait le point sur la situation dans la province du Mundoul, où ces producteurs cultivent désormais plusieurs hectares de sésame, délaissant les cultures vivrières et le coton, autrefois prédominantes.
En se tournant vers la culture du sésame, qui dans un passé récent est considérée comme une culture de loisirs, ces producteurs ruraux veulent régler deux problèmes. 1. Avoir rapidement beaucoup d'argent. 2. Éviter l'épineuse question des conflits éleveurs-agriculteurs, car, disent-ils, les fans du sésame ne nourrissent pas le bœuf comme pour la céréale.
Quand on l'a pour l'autre, le céréale, l'autre là, il y a beaucoup d'animaux qui ont fait l'autre à dévaster la culture de céréales. C'est pour cela qu'on a laissé tout le culture de céréales et puis on vient pour la culture de sésame.
Pour amener les producteurs ruraux à prendre conscience de cette situation, le ministère en charge de l'agriculture, à travers sa délégation de la province du Mandoul, a mis à la disposition de 98 producteurs ruraux 550 kg de sésame amélioré de céréales pour une superficie de 56 hectares. Le gouverneur de la province du Mandoul, Mohamed Zen Aladji Yaya, qualifie cette situation d'une dérive qui fait planer déjà la famine sur cette province qui est censée alimenter tout le Tchad. Il invite les producteurs à une prise de conscience.
Dans notre culture d'agriculteur, il est inconcevable que le chef de famille passe toute la saison pluvieuse dans son champ et n'ait pas mettre quelque chose dans son grenier, quelle que soit la quantité. Le Burkina Faso, qui est le plus grand producteur du coton en Afrique, fait obligation à chaque cotonculteur de faire au minimum un demi-hectare de culture vivrière.
Le délégué provincial de la production et de l'industrialisation agricole de la province du Mandoul, Alata Geralta, présente les statistiques des cultures de rente durant la campagne agricole en cours comparativement aux années précédentes.
L'année 2022, sur l'ensemble de la province, nous avons recensé 97 025 hectares. En 2023, nous avons recensé 110 063 hectares. Donc, il y a eu une augmentation entre 2022 et 2023 de presque 14%. Maintenant, cette année, pour le seul mois de juin, nous avons constaté que le sésame a été semé à plus de 33% de toute la superficie semée, alors que ce n'est pas encore le mois de semis de sésame.
Alata Geralta informe au micro de VOA Afrique que l'abandon des cultures vivrières a également des conséquences sur le bétail.
Cette année, nous avons constaté qu'au mois de mai et juin, beaucoup des animaux sont morts parce qu'il n'y a pas de pâturage. Dans les années passées, les tiges de céréales servent aussi de pâturage. Les gens font des stocks pour nourrir les animaux en période de crise. Mais cette année, il n'y en avait pas. Donc, il y a à la fois les conséquences pour les hommes et il y a aussi les conséquences pour les animaux.
C'est dans cette situation de risque de famine que l'INADES Formation Tchad a renforcé dans le cadre du projet d'appui au stockage de sécurité alimentaire en Afrique de l'Ouest étalé à l'espace du communauté permanent inter-État de lutte contre la sécheresse dans le Sahel SILS, les capacités de plus de 30 représentants des producteurs ruraux des zones agricoles du pays disposant de magasins et banques de céréales sur la gestion des stocks de proximité. André Kodomadjingar, N'Djamena pour VOA Afrique.
VOA Afrique, N'Djamena. C'est 93.1 FM au Tchad.
Au Mali, dans la région de Badiangara, l'insécurité croissante menace la campagne agricole. Malgré des attaques armées, des initiatives sécuritaires permettent à certains agriculteurs de cultiver, nourrissant l'espoir d'un retour à la paix et à la stabilité. Le reportage à Koro de Tidiani Ouedraogo.
Non loin de la grande mare du village, les femmes pilent les mines et chantent la bravoure des agriculteurs. Une tradition du village bien respectée par Korka et ses amis.
Nous sommes très contents de piler les mines devant la grande mare, bien remplie d'eau de pluie. Nous allons préparer les taux pour donner aux cultivateurs qui sont au champ.
Malgré un léger retard constaté sur le démarrage de la campagne agricole, les agriculteurs de la région retrouvent les sourires après la grande pluie de la nuit dernière. Ici, l'agriculture est la principale activité économique.
Après la grande pluie d'hier soir, les mares sont remplies d'eau. Je suis en train de cultiver de l'arachide. Je peux avoir jusqu'à 40 sacs par hectare. Ensuite, je revends une partie des récoltes pour faire les dépenses de ma famille.
Depuis le début de la crise sécuritaire dans le centre du Mali, les attaques des groupes armés s'intensifient pendant l'hivernage. Plusieurs villages de la région n'ont pas accès à leurs champs à cause des menaces. Comme Amadou, beaucoup ont été victimes d'attaques dans leurs champs de culture.
Je suis victime d'attaques des groupes armés. Après l'attaque de notre village, les assaillants sont repartis avec nos troupeaux. Par manque de moyens, je laboure mon champ avec un âne et un bœuf, comme tu peux le constater toi-même.
Selon des témoignages que nous avons recueillis auprès des populations, l'armée se déploie dans plusieurs localités de la région afin de sécuriser les cultivateurs. Une situation qui permet à Marthe de se rendre dans son champ en toute quiétude.
C'était difficile de se rendre au champ, mais les choses se sont améliorées ici. Cependant, il y a encore des villages où les cultivateurs ne peuvent pas se rendre dans leur champ à cause des menaces.
Les populations fondent l'espoir sur le retour définitif de la paix et le vivre ensemble, car, disent-elles, l'agriculture et l'élevage sont les principales activités économiques de la région. Tidjani Wedraogo pour VOA Afrique, Koro.
Restez avec nous à Bamako, au Mali, sur le 102 FM, CVOA Afrique, 24h sur 24.
Environ 600 millions de personnes en Afrique, soit 43% de la population du continent, n'ont pas accès à l'électricité, selon l'Agence internationale de l'énergie. Au Nigeria, le plus grand pays d'Afrique, bien que l'électricité soit produite depuis plus d'un siècle, le développement des infrastructures reste lent, la production et la distribution d'électricité sont toujours inadéquates. Mais un Nigérian tente de créer la danse en mettant au service de la situation. Notre correspondant Titi Obiezu l'a rencontré. Son reportage est relaté par Dini Niwa.
Martin Davo, 28 ans, gère son salon de coiffure à Abuja depuis près de 4 ans. Mais comme des centaines d'autres entreprises sur ce marché, son magasin n'est pas connecté au réseau électrique et l'alternative est devenue trop chère depuis que le gouvernement a supprimé les subventions sur l'essence l'année dernière.
Il n'y a pas de lumière ici et même l'achat de carburant pour le service des clients est devenu trop cher. Comment peut-on acheter un litre d'essence pour 700 naira et faire payer aux clients 200 ou 300 pour une coupe de cheveux?
Martin Davo s'appuie sur des tondeuses alimentées par batterie pour s'en sortir, mais l'entreprise est toujours en difficulté. Depuis des décennies, le Nigeria est confronté à la faiblesse de la production et de la distribution d'électricité en raison d'incertitudes politiques et réglementaires, de l'approvisionnement en gaz et d'une infrastructure inadéquate. Les autorités affirment que cette situation empêche quelques 100 millions de citoyens de vivre décemment. Mais ces défis sont à l'origine d'innovations telles que le système de générateur d'énergie verte de Regino Bamji, équipé d'un processeur de batterie auto-rechargeable. Regino pense que son innovation pourrait contribuer à résoudre les problèmes d'électricité de Martin Davo et de beaucoup d'autres personnes dans la même situation.
What this processor does?
Ce qu'il fait, c'est qu'il prend un peu d'énergie de l'énergie principale et l'amène à la batterie externe. Elle se charge et stocke de l'énergie pour vous. Lorsque les batteries s'épuisent et qu'il n'y a pas d'énergie solaire, de réseau électrique, de NEPA ou de vent pour les recharger, ce système est très utile. Il recharge immédiatement les batteries.
Regino Bamiji, 61 ans, est un innovateur depuis plus de 20 ans. Il alimente sa maison avec sa technologie et a récemment conclu un partenariat avec une société italienne. Cette dernière l'aide à construire un nouveau modèle de son invention et partagera les bénéfices lors de sa commercialisation sur le marché. Regino a également mis au point une voiture électrique en utilisant un principe similaire.
En Italie, ils ont reproduit le même modèle que celui que nous avons ici, mais il est plus beau que le nôtre parce qu'il s'agit d'une entreprise de fabrication avec laquelle nous allons conclure un accord. J'ai souhaité que ce soit en Afrique ou au Nigeria, mais je n'ai pas d'autre choix parce que les gens ne veulent pas croire en quelque chose qui vient de leur pays.
En février de cette année, le ministère nigérian de l'innovation s'est engagé à soutenir les inventions locales pour stimuler la croissance économique et résoudre les problèmes. Regino Bamiji explique qu'il a présenté son invention à des fonctionnaires à plusieurs reprises, mais que ceux-ci n'ont manifesté aucun intérêt ni aucun soutien. Selon lui, si les autorités ne tiennent pas leurs promesses, des millions de Nigérians n'auront pas accès à une électricité régulière et abordable.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable.
La conférence mondiale sur le sida se tient à Munich en Allemagne où 10 000 décideurs politiques, professionnels de la santé et militants de lutte contre le VIH-Sida sont réunis pour partager les informations sur les avancées de la recherche et discuter de l'avenir de la riposte contre le VIH. C'est dans ce contexte que Blanche Sanou s'est entretenue avec le docteur Apollo Thiam de la Fondation Elisabeth Glaser Pediatrics AIDS.
Les points à noter pendant la conférence, bien sûr, c'était le progrès qu'on a fait pour augmenter le nombre de personnes vivant avec le VIH qui sont sur traitement. On a revu qu'en 2023, 77% des adultes vivant avec le VIH étaient sur traitement. On a eu 120 000 nouveaux enfants qui ont été infectés en 2023. C'est un progrès, bien sûr, que minime, mais nous savons que dans le monde aujourd'hui, il faut célébrer les progrès des positifs vraiment avec des situations comme ça. Donc c'était une baisse qui est partie de 130 000 en 2022 à 120 000 en 2023. On a pu constater que les pays qui avaient beaucoup d'investissements pour la lutte contre le VIH, comme en Afrique orientale, en Afrique australe, ont fait beaucoup de progrès. L'Afrique centrale et de l'Ouest restent un peu en arrière et ça veut dire qu'on doit continuer à investir dans la lutte contre le VIH dans tout le monde entier, en particulier en Afrique.
En quoi cette conférence est vraiment importante pour l'Afrique?
Cette conférence est importante pour l'Afrique dans plusieurs perspectives. Un, ça donne l'opportunité au monde scientifique, dont les grands chercheurs de partout dans le monde, aux experts, et la communauté, c'est-à-dire les gens vivant avec le VIH, ils se retrouvent tous les deux ans pour regarder le progrès. La deuxième chose, c'est qu'on regarde aussi la feuille de route qu'on s'est donnée, si on est sur la bonne voie. Le dernier élément sur lequel je voudrais m'attarder aussi, c'est regarder sur les capacités des systèmes sanitaires. Nous avons vu entre 2020 et 2022, avec la pandémie, que les systèmes de santé que nous avons sont très fragiles.
Et vous pensez que les pays africains sont capables d'atteindre l'objectif de l'ONU visant à mettre fin au sida d'ici 2030?
Je crois que si le monde vraiment se met derrière l'Afrique pour donner le support dont on a besoin, par exemple PEPFAR, qui est le programme du président américain pour l'urgence contre le VIH et la tuberculose, si on a un programme comme ça qui peut continuer à investir dans le VIH, je crois que l'horizon 2030 est possible. Mais quand nous voyons que les fonds sont retirés et malheureusement et souvent sans consultation et sans engagement de la communauté, ça devient un peu vraiment les politiciens disent quelque chose à droite et agissent différemment à gauche. Pour finir, il est grand temps de continuer à définir les bases pour avec les grands acteurs sur le continent africain, surtout les gouvernements.
Docteur Apollo Thiam de la Fondation Elisabeth Glaser Pediatric AIDS.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Et c'est la fin de cette édition. Un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production qui a permis la réalisation de ce journal. Au micro, Mouhamadou Mfa, ainsi va le monde aujourd'hui. Pour plus d'informations, 24h sur 24, un seul site internet, voaafrique.com, sans oublier nos différentes plateformes digitales, Facebook, YouTube et X, autrefois Twitter. Merci de rester à l'écoute des programmes de VOA Afrique. À très bientôt.